Alors, reconnais-tu cette douce musique qui nous emporte loin de Strasbourg et plutôt vers les îles, Bruno?
Ouais, je crois que c'est Monkey Island.
Monkey Island, voilà, parce que tu représentes donc 99 Monkeys, 99 Monkeys, je sais pas.
Oui, c'est ça, 99 Monkeys, ouais, tout à fait.
Alors, tu peux nous présenter rapidement l'éditeur?
Oui. Alors, en plus, ça tombe à pic de choisir une musique de jeu vidéo. C'est que, en fait, on est une bande de potes qui travaillons dans le jeu vidéo depuis une dizaine d'années.
En indé, chez des éditeurs?
Dans des studios de développement indépendants en général, même si on vient un peu de partout. Et on a toujours eu envie de travailler ensemble sur un projet commun et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire et on voulait faire du jeu de société.
Vous étiez tous joueurs à la base déjà?
On était tous joueurs à la base, ou peintres de figurines, etc. Et du coup, c'était assez naturellement qu'on s'est réunis autour de ce projet, qu'on a donc décidé d'appeler 99 Monkeys. Et aujourd'hui, ça fait...
L'origine du nom, c'est Monkey Island ou pas?
Non, mais pourquoi pas? Parce que en fait, on cherchait un nom qui marche avec notre génération, et on avait plusieurs inspirations. Alors Monkey Island, c'est très chouette, ça prouve que ça marche. Mais nous, ce qu'on avait surtout en tête, c'était l'armée des 12 singes, qui en anglais, c'est 12 Monkeys. Et
voilà, un film de Terry Gilliam, l'excellent film au prix de la jetée de Chris Marker, voilà, aussi un très bon film. Ok, et alors vous lancez le projet, et donc autour de quel jeu?
Alors voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille sur notre premier projet qui s'appelle Los Angeles Vice Division.
D'accord.
Et il s'agit d'un jeu de plateau avec figurines où les joueurs incarnent des policiers du Los Angeles dans les années 40 et devront résoudre des affaires en interrogeant des témoins qui se baladent dans la ville de jour comme de nuit.
D'accord. J'entends nouveau projet, il y a 3 ans, figurines. Est-ce qu'il y a une histoire de Kickstarter derrière ça?
Oui.
Ouais. C'est un incontournable aujourd'hui pour ce genre de projet? C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu faire avec des fonds propres par le circuit traditionnel?
Alors, nous, on n'est pas parti de la problématique financière pour faire un Kickstarter. Ça nous semblait simplement naturel de discuter directement avec le public, de voir comment il allait recevoir le projet via cette plateforme qui est pour nous avant tout une forme de réseau social.
D'accord.
Voilà, donc on voulait surtout tester l'approche.
Le financement participatif, un peu comme outil de communication, c'est ça?
Oui, voilà, voilà.
D'accord.
C'est très important pour nous de fédérer une communauté en premier lieu. Pour un premier jeu, parce qu'on a vraiment réfléchi à une ligne éditoriale, et ce premier jeu est le phare en fait qui va ouvrir.
Va attirer les bateaux, voilà, qui sont les autres
jeux. Voilà, et qui va vraiment ouvrir la piste à d'autres jeux. On en a déjà d'autres en réserve, et on cherche vraiment à discuter avec la communauté pour développer tout ça ensemble et être vraiment sûr et être au plus proche de leurs attentes.
Alors, comme tu as bossé dans le jeu vidéo, tu sais que les early access, etc., il y a un côté, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de retours. Bon, là, c'est plus difficile pour les jeux de société parce qu'il n'y a pas les retours techniques qu'il peut y avoir sur les early access en jeu vidéo. Mais il y a le côté où la communauté demande des fois des choses un peu absurdes ou bien qui vont pas du tout avec l'esprit du projet, parce que je pense que tu confirmes qu'il y a l'écoute du public, mais il y a aussi garder l'essence de ce que vous vouliez faire.
Tout à fait. Alors, là-dessus, c'est évident que les joueurs ont parfois des envies qui coïncident pas forcément avec le projet, avec le projet surtout. Il faut qu'il ait son identité, c'est pas une multi-identité. Et là-dessus, en fait, même si ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on communique avec, parce qu'on a gardé la première année pour faire énormément de travail
de développement,
d'archives aussi sur la ville de Los Angeles, l'époque, les années 40. Donc en fait aujourd'hui on sait beaucoup de choses sur cette époque-là et on sait ce qu'on veut faire particulièrement. Donc les retours des joueurs, c'est on va le considérer plus comme tout ce qui est playtest, gameplay, les affinités qu'ils ont avec ce propre univers-là aussi, et voir quel curseur on met le plus en avant sur le jeu, quoi.
D'accord, ok. Et donc il y avait déjà dès le début l'idée d'aller sur... Il y a 3 ans, Kickstarter marchait déjà bien. Il y avait déjà cette idée-là.
Oui.
Dès le début,
on a toujours eu l'idée de commencer avec la communauté. Ouais.
D'accord. Et comment est-ce que justement on communique comme ça autour d'un premier projet pour dire on va arriver, informer en même temps en avance pour que les gens, la communauté soit déjà entre guillemets préexistante au lancement du Kickstarter. Le Kickstarter, il a été lancé ou vous le lancez bientôt?
Non, on lancera sans doute dans l'année.
Dans l'année, d'accord. Bon, j'imagine que ce sera prévu pour un mois, quelque chose comme ça.
Enfin, ouais,
c'est
normalement,
un truc standard. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour fédérer une communauté en amont qui va permettre, lorsque le projet sera lancé, de dépasser cette communauté-là? On l'avait vu pour la plupart des Kickstarters qui marchent bien, c'est il y a une communauté assez forte, mais cette communauté arrive à amasser des nouveaux joueurs qui font que la campagne est plus que juste un succès de niche, quoi.
Tout à fait. Je crois qu'en fait la priorité, c'est d'arriver à discuter avec le public, donc de faire des salons comme aujourd'hui des Bretzel et des jeux, de montrer le jeu, de voir qu'il évolue, que que des qu'on prend en considération ce que les gens nous disent, que ça fait partie intégrante de, du développement du projet, de voir aussi comment le projet lui avance dans sa concrétisation j'ai envie de dire industrielle.
D'accord.
Et voilà, c'est vraiment un travail de communication qui se fait dans la durée, parce que c'est avant tout une question de confiance, et la confiance, ouais, ça se fabrique au jour le jour et dans la continuité.
Et comment on fait pour parfois il faut faire comprendre aux gens qu'on vous a entendu mais ça va pas avec, et comment on fait justement pour, parce qu'il faut garder une certaine diplomatie sous peine d'avoir un bad buzz voilà, comment on fait pour un peu rester diplomate comme ça alors que des fois ça nous paraît complètement absurde, des demandes de certains?
Bah, je pense qu'il faut rester sur, faut discuter avec les gens de l'identité du projet. Nous, ce qu'on veut faire avec Los Angeles Space Division, c'est avant tout donner une définition du polar dans les années 40 américain.
D'accord.
Et donc, quand on pose ces bases-là, il n'y a plus vraiment de propositions farfelues, parce que tout le monde.
Il y a un contexte historique.
Il y a un contexte historique, et surtout il y a un contexte de projet. Il n'est pas simplement opportuniste. C'est pas, il a une vraie identité, il a une vraie âme, et c'est celle qu'on essaye de garder. On garde le cap là-dessus, et du coup les gens comprennent, et c'est un univers qui est suffisamment connu par tous pour que on puisse projeter nos fantasmes, et en même temps conserver ce cadre de jeu qui est les années 40, les États-Unis.
Et ça vous vient d'où cette envie de ce contexte-là? Parce que Los Angeles, on le connaît pour plein d'autres choses, mais et Los Angeles Vice Division, moi je vois Vice City, je vois The Division, vous avez tout pioché dans le jeu vidéo en fait.
Inconsciemment peut-être, ouais. Parce que de toute façon, il y a des influences, c'est notre culture professionnelle, ça fait entre 10 et 15 ans qu'on travaille dans le jeu vidéo, donc très certainement que voilà, on peut pas renier notre passé, c'est pas du tout le propos. Je pense que
le côté Los Angeles des années 40, pour le coup, c'est,
je pense
c'est
que
quoi
c'est
les
surtout, je pense que c'est surtout le cinéma.
Le cinéma. Ouais, t'as des films comme ça précis, les films noirs, des récents ou des années 50 justement plutôt.
Oui, il y a comment il s'appelle déjà. Il y a Les Confidentiels.
D'accord, ouais.
Déjà en tête. Après, il y a surtout des réalisateurs. Il y a Samuel Fuller que j'aime beaucoup. Il y a Jules Dassin aussi que j'aimais beaucoup, beaucoup de polars de ces années-là, ou même des polars français, les films de Melville, tous ces genres de choses, et tous ces films-là ont un propos qui est avant tout social.
Ouais, bien
sûr. Il y a une intrigue qui est divertissante, qui est une enquête policière, mais il y a un propos social derrière.
Ouais, le polar au cinéma, c'est pas juste une enquête. Il y a tout un background, etc. Et c'est pour ça que quand Blade Runner était sorti, on a dit que c'était surtout un polar plus qu'un film
c'est
de SF.
Ça. Quoi. Exactement. C'est ça qu'on essaye de retranscrire dans d'autres jeux. Donc beaucoup de joueurs, surtout de joueuses, nous disent « Ah, mais il n'y a pas de femme qu'on peut incarner dans notre jeu. » Et ça, c'est quelque chose qu'on veut conserver. Et justement, on trouve ça très bien que des gens réagissent comme ça. Parce que oui, ça faisait partie de la réalité à cette époque-là. Les femmes, malheureusement, étaient interdites dans la police en 40 à Los Angeles. Et elles intégreront la police dans les années 60, en commençant par San Francisco. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut démontrer, parce que si ce projet fonctionne, on l'a pensé en trilogie.
Voilà,
parce que pour nous, le polar américain, ça débute en 40 et ça finit en 60.
Ouais, et puis donc... après, il y a même Michael Mann, quoi, qui revient avec Miami Vice ou Collateral, qui est encore
c'est
autre chose. Quoi.
Et ça, c'est une autre période qui est plus moderne, c'est les années 80-90. Ouais. Voilà. Et nous, on voulait traiter la période...
film noir. Quoi.
Voilà, film noir.
Ouais, alors que...
Et après les années 60, on passe dans autre chose. Il commence à y avoir des tueurs en série, des choses comme ça, avec le Zodiac à la fin des années 60. Et voilà, c'est une autre atmosphère, c'est une autre ambiance. Et pareil, avant les années 40, c'est la mafia, la prohibition. Et donc c'est encore autre chose, c'est un autre univers.
Il y a quoi? Et comment on fait pour, en termes de game design, retranscrire un peu? Parce que là, on a parlé de cinéma. Le cinéma, il y a le côté visuel, il y a le côté la musique, il y a le côté... toute l'écriture du scénario. Comment est-ce qu'on fait en game design pour essayer justement de s'intégrer dans cet univers, mais que ça se ressente aussi, que ce soit pas juste un énième jeu de figurines où finalement il y a juste un thème comme ça.
Alors là-dessus, pour nous, la référence, ça a été le côté ludique de l'écriture de James Ellroy. Quand vous lisez,
on est dans la littérature du coup.
Voilà, on est dans la littérature. Quand vous lisez James Ellroy, ses enquêtes, elles avancent par des binômes qui vont se créer dans ses inspecteurs. Tout seuls, ils avancent pas. Et ils ont besoin de créer des binômes. Alors, c'est des binômes qui s'entendent pas parce qu'ils ont des problèmes...
C'est Rick Zemmertog de L'Arme Fatale.
Voilà, par exemple.
Et une revisite du binôme, du buddy movie, un peu, ouais.
Et nous, on voulait créer ça. dans notre jeu, c'est ce qu'on s'est dit, c'est la partie la plus ludique dans une enquête policière, c'est comment les flics travaillent ensemble malgré leurs différences. Et du coup, on a une partie coopérative où les joueurs vont mener des enquêtes. Donc chaque joueur a une enquête à mener, et pour mener leurs enquêtes, ils doivent interroger des témoins. Le truc, c'est que nos témoins vivent leur vie et vont raconter des choses sans savoir s'ils parlent directement de l'affaire dont est concerné le joueur flic.
D'accord.
Et donc, à partir de là, les joueurs vont discuter ensemble des indices qu'ils trouvent pour vérifier, bah voilà, moi j'ai tel indice, j'ai telle information, on se les échange, comment, qu'est-ce que t'en penses, mon affaire elle avance comment, voilà. Donc il y a un côté coop, réflexion sur leurs enquêtes. Et comment créer
une espèce d'ambiance, ouais,
une ambiance, et puis surtout le fait que le binôme peut rompre à tout moment. Mm-hmm. On a décidé que nos flics étaient corrompus.
D'accord, ouais. Voilà. C'est les flics. Hein.
Voilà, dans les années 40. Notons bien, les années 40. Et du coup, un autre aspect du jeu est d'avancer dans les grades de la police, dans la hiérarchie, et pour un peu comme à Mario Kart, pour espérer être le premier avant les autres.
Carapace bleue.
On lance une carapace bleue. On va essayer de dénoncer la corruption, on va essayer de chercher quelle est la corruption des joueurs, la dénoncer, et si on y arrive, le joueur dénoncé est rétrogradé, et nous on est promu.
D'accord.
Donc c'est okay. Comme ça qu'on récupère en fait la première place.
Elle est belle, hein, le Los Angeles des années 40.
Voilà.
Hein. Et pourquoi le choix des figurines? Alors c'est un choix sur Kickstarter, c'est quelque chose qu'on voit souvent parce que les jeux avec figurines fonctionnent mieux que les jeux sans figurines. Est-ce que ça a un intérêt dans le gameplay, disons?
Oui. Alors ça a un intérêt. Alors pour nous, en fait, on scinde jamais le thème avec le gameplay, ce genre de choses. En tout cas, dans la culture de jeux vidéo, c'est très difficile de ouais. scinder les deux. Et nous, c'est vrai qu'on vient de là au départ. Et pour nous, le côté figurine, on y tenait dès le départ parce que ça, c'est une partie intégrante de l'immersion dans le jeu. Notre Los Angeles, c'est avant tout un plateau de jeu où au départ il n'y a rien dessus à part les districts tels qu'ils étaient dessinés à l'époque. Et c'est en avançant, en choisissant le scénario, que les lieux vont se créer. Et c'est au fur et à mesure qu'on découvre des témoins que les témoins vont apparaître. Donc en fait, on a un côté ludique à créer notre Los Angeles partie après partie.
D'accord.
Et donc on ajoute vraiment à l'immersion des années 40. De plus il va y avoir de figurines sur la table, plus on va être immergé par la culture aussi de l'époque, par les vêtements, par la gestuelle et la pose des figurines, des choses comme ça.
Vous avez fait des figurines mobiles, non?
Non, mais on a des poses, on leur donne des poses clés qui sont vraiment typiques de cette époque.
D'accord.
Des poses de course ou de marche qu'on trouverait très obsolètes aujourd'hui, quoi.
D'accord. Je reviens juste un instant sur la communication, justement. Il y a, dans le jeu vidéo, toujours, il y a des influenceurs, hein. On sait qu'il y a la presse, les notes de la presse, etc., mais qu'aujourd'hui, les youtubeurs sont une influence plus importante pour les éditeurs que la presse traditionnelle. Est-ce que, comme ça, dans le jeu de société, en tout cas sur Kickstarter, on va chercher à avoir de la communication de la part d'influenceurs, comme par exemple Dice Tower ou ce genre de choses?
Ah oui, de toute façon, on cherche toujours à faire parler de notre projet. Sinon, ça a quand même difficilement de sens d'essayer de créer une communauté sans qu'on en parle. Mm-hmm. Donc oui, évidemment, oui, on cherche à le faire connaître. Pour notre part, en tout cas, on cherchera pas à influencer les influenceurs.
Ouais, ouais.
Mais
et ça se fait comment? Est-ce qu'on leur envoie un mail en disant c'est sorti? Est-ce qu'on leur envoie une boîte ou bien est-ce qu'on attend qu'ils viennent vers nous et
C'est un peu des deux.
Peu
mais
des
je
deux.
Pense quand même que c'est un peu naïf d'attendre qu'ils viennent vers nous.
Ouais. D'accord. Voilà. Ouais, mais surtout quand c'est un premier projet comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un peu des deux. On est quand même dans un monde de passionnés. On est quand même un peu tous tout le temps dans les festivals, donc on finit toujours par se rencontrer. Voilà. Donc il peut y avoir des rencontres un peu comme ça qui se créent, mais faut quand même créer la rencontre.
D'accord. Dernière petite question. Est-ce que tu as aimé L'Œil Noir du coup de chez Rockstar, aussi dans le Los Angeles? Je sais pas si c'est les années 40 pour le coup et qui était célèbre pour sa reconnaissance faciale qui permettait de voir si quelqu'un mentait, qui était un peu exagéré pour le coup.
Oui, oui. Bon, alors, en tant que professionnel, j'ai aimé la prouesse technologique. Il y a énormément de choses dans ce jeu. Après, je suis pas sûr que la reconnaissance faciale ait beaucoup aidé à comprendre que les personnages mentaient ou pas.
Ouais. Ouais,
parce que c'est toujours très difficile dans l'univers virtuel d'arriver à donner de vraies impulsions humaines à des personnages de synthèse.
Ouais, tout à fait.
Et je pense que c'est encore plus difficile dans le jeu vidéo. Donc je salue vraiment l'ambition et le challenge technique, mais je suis pas sûr d'y avoir
pas la résonance en termes de pour le joueur, quoi.
Oui, et puis je pense aussi que ça peut être fait qu'une fois en fait.
Ouais, que c'est vraiment une prouesse technique et puis qu'a priori. Ouais. Ok, bah écoute, je vais te souhaiter un bon festival, merci. Des bons bretzels, des bons jeux.
Aussi.
Et puis bah, peut-être à une prochaine alors, et bon courage pour le lancement du Kickstarter.
Merci
ciao.
Beaucoup, au revoir.